bienvenue autour de cette grande table. La gauche a-t-elle renié ses valeurs? On en parle à partir de 12h55 avec notre invitée, la philosophe Stéphanie Rosa, auteure de La gauche contre les Lumières, avec un point d'interrogation. Elle fait dans cet essai un état de la pensée à gauche et tente de comprendre l'anti-universalisme actuel d'une partie de la gauche. Mais d'abord, échange de regards, réalisatrice de Histoire d'un secret et de l'Assemblée, Mariana Otero est notre invitée à l'occasion de la sortie en salle mercredi de son nouveau film documentaire Histoire d'un regard. Elle y raconte sa rencontre dans et par l'image avec un grand photographe disparu en 70 pendant un reportage au Cambodge. Il s'appelait Gilles Caron. Il avait tout juste 30 ans. Mariana Otero est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur le fil de vos podcasts.
La grande table. Olivia Gesbert.
Un jour, un ami m'a envoyé un livre, la biographie d'un photographe, Gilles Caron. Je me suis aperçue que certaines de ses photos habitaient ma mémoire. La guerre des six jours, mai 68, le conflit nord-irlandais, la guerre du Vietnam. Et puis sa disparition au Cambodge, en 1970, il a tout juste 30 ans.
Ça, c'est quelque chose de très incroyable en lui, c'est que dans une pellicule de 36 vues, il y en a au moins 30 qui sont exploitables, quoi. C'est incroyable.
Bonjour, Mariana Otero.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Là, je vous vois, vous, dans ce film, vous le tutoyez, Gilles Caron. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous différencie dans notre relation au sujet?
Alors, je l'ai tutoyé parce que j'ai passé 6 mois à rechercher dans ses photos l'ordre dans lequel il les avait prises, hein, parce que les, et du coup, j'ai vraiment fait des recherches, je suis vraiment rentrée dans ses pas, j'ai suivi son cheminement physique et intellectuel. Et toute cette période de travail et de recherche a fait que je me sentais quand même assez près de lui d'une certaine façon. Et puis parce que le projet de ce film, c'était de rendre présent Gilles Caron. Et je pense que le tu, d'emblée, ça convoque sa présence beaucoup plus que le il. Et ça entraîne justement le spectateur dans cette recherche de façon beaucoup plus efficace que si c'était il.
Mais c'est plus qu'un choix formel et on le sent, c'est-à-dire qu'à un moment, au fil de cette enquête qui a été large, qui a pris du temps, la rencontre s'est faite pour vous, entre vos deux regards.
J'ai eu l'impression effectivement de comprendre vraiment comment il travaillait. À la fois comment il passait d'une pellicule à l'autre, enfin d'un objectif à l'autre, comment il s'approchait des gens, comment il saisissait une situation, comment il s'intéressait aux personnages, à construire des personnages. Et donc moi, j'ai eu l'impression d'être à même de comprendre son travail.
Il est mort à 30 ans au Cambodge. En 6 années seulement de reportage, il a réalisé plus de 100 000 photos, 2590 planche contact, c'est beaucoup, c'est énorme. Vous les avez toutes eues, ces photos, entre vos mains. C'est même la matière à partir de laquelle vous avez travaillé, Mariana Otero. Comment vous avez fait pour ne pas vous noyer?
J'ai cru me noyer plusieurs fois. Hein. Ça a été, c'est peut-être ça qui a été le plus difficile. En fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu accès effectivement à ces 100 000 photos. La Fondation Caron m'a confié un disque dur, ce qui est une chance absolument incroyable, hein, de pouvoir comme ça voyager dans tout un travail d'un photoreporter. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elles étaient dans le désordre. C'est très important parce que c'est ça qui a aussi motivé au départ, d'une certaine façon, ma recherche, enfin, qui a été un peu le déclencheur d'une enquête. Donc, elles étaient dans le désordre. Pourquoi? Parce que les agences recevaient les pellicules sans numéro, parce que les photoreporters n'avaient pas le temps de mettre des numéros, et comme elles n'étaient pas étirées et développées, c'était des numéros aléatoires. Donc moi, pour comprendre le cheminement de Gilles Caron, je devais remettre ça en ordre. Et c'est ce travail-là absolument essentiel qui m'a vraiment rapproché de lui, quoi.
La remise en ordre aussi, le fil de ses 6 ans dans sa vie, de tout ce qu'il a pu voir, comprendre, et l'évolution de son regard, parce qu'il y a la maturité qui va aussi qui va arriver. Gilles Caron, c'était le Robert Capa français, a dit de lui Cartier-Bresson. Je ne sais pas s'il faut entrer dans ce type de comparaison, mais vous, comment vous qualifiez aujourd'hui ce regard que vous avez tant observé?
Moi, ce qui m'a frappé, c'est la manière dont il s'intéresse aux gens. C'est-à-dire que c'est pas seulement la situation qu'il veut raconter. Il n'est pas là juste pour couvrir l'actualité. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de saisir quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un, même quand il photographie par exemple les enfants au Biafra, il essaie de saisir cet enfant-là, et pas seulement un enfant qui serait affamé. Il y a vraiment cette attention aux gens. Alors c'est à travers le travail sur le corps, hein. Il y a beaucoup de présence des corps, il fait des plans. Je dis des plans parce qu'il y a quelque chose de très cinématographique dans le travail de Gilles Caron. À la fois cette attention au corps et cette attention au regard. C'est-à-dire que il y a toujours une rencontre entre lui et les gens qu'il photographie. Et ça, pour moi, ça caractérise vraiment son travail.
C'est-à-dire que vous pensez que ce qui l'intéressait le plus, au fond, c'était vraiment les hommes au cœur de l'histoire, plus que les événements. Et pourtant, il en a couvert un certain nombre d'événements.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'événement. C'est-à-dire que c'est les gens à l'intérieur de cet événement et là. Il essaie de saisir les gens dans leur singularité et de pas les réduire en fait à la victime. Ce ne sont jamais que des victimes. Ce sont d'abord des gens dont on saisit quelque chose qui fait qu'ils sont pas qui sont pas banalisés. Il y a une singularité qui donne justement de façon assez paradoxale une universalité à ces photos.
Une photo lisible, claire, nette et serrée qui provoque un effet de surprise et c'est gagné, dit de ces photos Raymond Depardon, qui l'a vraiment repéré. Et ils ont continué à travailler aussi ensemble, tous les deux, avec une amitié professionnelle qui est vraiment née entre les deux hommes. Il n'y a pas tellement de différence entre couvrir la guerre en Israël et couvrir la première d'une soirée à l'Olympia. Écoutez la voix de Gilles Caron dans votre documentaire Mariana Otero, Histoire d'un regard.
Il n'y a pas tellement de différence entre courir la guerre en Israël et faire la première à l'Olympia. Exactement. Pour moi, c'est pareil. Il faut trouver à chaque fois la petite histoire, trucmuche avec trucmuche, qu'on va vendre le lendemain, France Dimanche ou ici Paris. Mmh. Tout ça. Mais on ne peut pas ne pas faire aussi la personne sur scène. Il faut faire la personne sur scène. Il faut faire la personne sur scène applaudie par les gens dans la salle. Il faut avoir le temps de faire et de salut et se retrouver derrière le rideau avec elle pour être avant les gens qui arrivent, pour lui serrer la main, pour pouvoir être le premier dans les coulisses. Ah, mais vous vous rendez pas compte, la bousculade que c'est, parce qu'une loge d'artiste, c'est moitié grand comme ça, il y a une porte qui est grande comme ça, et il y a 300 personnes qui essayent de rentrer en même temps. Eh bien, le gars qui fait ça bien et régulièrement bien, c'est un type qui sera bon sur autre chose, c'est pas possible autrement, parce que c'est un type qui aura, à chaque fois, il aura l'œil, il sentira le moment auquel il faut qu'il parte, etc.
Voilà, parce qu'il faut aussi raconter, Mariana Otero, que dans cette masse de photos, il y a des photos prises dans des situations de guerre, sur des conflits de guerre, des théâtres de conflits, d'opérations, mais il y a aussi des photos qui nous semblent beaucoup plus légères, futiles aujourd'hui, pour un homme qui a vu autant de souffrances, traverser aussi tous ces moments-là, de stars ou starlettes de l'époque. Hein.
Oui, c'était le quotidien des journalistes à l'époque. Hein. Il fallait photographier les people, les premières à l'Olympia, les hommes politiques, beaucoup, les conseils de ministres. Donc j'ai vu une quantité absolument incroyable de ce type de photos, dans lesquelles il arrivait à faire à chaque fois des photos assez extraordinaires. De Gaulle, par exemple, il y a toute une série qui n'est pas dans le film, mais qui est très très belle. Et donc entre des photos, des reportages de guerre, il y avait ce quotidien. Donc il enchaînait en fait reportage à Paris et puis tout d'un coup il partait à l'autre bout du monde, 3 jours, parfois plus longtemps, 3 mois au Vietnam, mais parfois de façon très très courte. C'est d'ailleurs ça qui un petit à petit l'a épuisé et c'est ça qui l'a remis en question, cette méthode de travail.
Il était attaché à un journal, Paris Match ou
Non, il était attaché donc à l'agence Gamma et c'est effectivement Raymond Depardon qui l'a fait rentrer. Mais il publiait beaucoup dans Paris Match. C'était quand même un des journaux où il y avait le plus de photos de photos reporters.
Voilà. Et magazine depuis sa naissance qui pratique ce mélange hein, d'ailleurs entre des sujets d'actualité très chaude et de quotidien des célébrités, des événements culturels, d'actualité culturelle aussi en France. Ce qu'il dit dans cet extrait intéressant, il dit c'est quand même dans ces moments-là qui nous semblent un peu anodin, qu'un photographe se taille un regard. Et notamment sur sa manière d'observer les visages, hein, de capter des expressions des gens, de s'approcher de plus en plus aussi de ces sujets. Hein.
Oui, on pourrait presque dire que des fois il photographie les soldats ou même des femmes sur des conflits, parce que c'est un photographe qui a beaucoup photographié les femmes. On pourrait presque dire qu'il les photographie aussi, avec une attention comme si c'était des stars ou des modèles. Enfin, il y a Il n'y a pas tellement de différence, effectivement, dans sa manière de mettre en valeur des gens sur un conflit et de les mettre en valeur à l'Olympia. Il y a cette même attention.
Oui, vous pensez notamment à cette très belle série des prostituées au Vietnam.
Oui, voilà. Oui.
Hein, qu'il a pu réaliser sur leur rencontre aussi avec les soldats, ces moments de rencontre qu'il peut y avoir entre les deux.
Hein. Oui, c'est assez étonnant parce qu'au Vietnam, il va à la fois photographier la bataille de Dak Tho, dont on ne se souvient plus, mais qui à l'époque était à une colline où il y avait des combats absolument dingues. Et lui, il va sortir des photos d'actualité pour aller photographier d'autres choses. Et ça arrive très souvent, en fait, dans ses reportages. Et là, il s'attache aux prostituées. Il y a plusieurs reportages. Et il y en a un où il essaie les photographies de très loin. Après, il rentre dans un café et là, il est plus près. Et puis après, vraiment, il s'immerge dans un espèce de lieu un peu glauque, comme ça, où les femmes reçoivent des soldats dans une espèce de cabane. Et on sent, enfin moi j'ai eu l'impression, c'était comme un documentariste, c'était comme moi quand je m'immerse dans un endroit. Enfin, j'ai reconnu ce type de travail où il est dans un endroit, il prend le temps avec ses femmes de parler avec elles. On sent qu'il y a une complicité et il fait un reportage qui ressemble presque à une séquence de film, du début à la fin, jusqu'au moment même où elle compte l'argent, et la grande complicité qu'il a avec ses femmes, il révèle quelque chose qu'en général on photographie peu, c'est-à-dire les effets de la guerre pour les femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail et économiquement elles sont obligées elles-mêmes de subvenir à leurs besoins et donc il y a la prostitution.
La bataille de Dak Tho que vous venez de citer, Mariana Otero, en 67, sur le moment, dit-il, tu ne sais pas vraiment quoi faire. Comme les autres, tu plonges dans les trous, tu mitrailles, tu suis un gars. C'est assez intéressant parce que quand il raconte sa pratique du métier, il théorise en fait assez peu, hein, Gilles Caron. Rappelons donc qu'il est quand même mort jeune aussi, à 30 ans. On voit qu'il est animé par la situation elle-même. Vous parlez avec ce film, cette histoire d'un regard, de rendre sensible sa trajectoire, la trajectoire du photographe. Quel feu l'animait au fond, vous diriez ?
Moi, je pense que, enfin, c'est l'hypothèse que je fais dans le film, hein, que il a été donc soldat pendant la guerre d'Algérie, il a été appelé, il a, d'ailleurs, à un moment donné, il a refusé d'aller au combat à la fin. C'est quelque chose qui l'a énormément marqué. Je pense qu'il a vu des choses, d'ailleurs, c'est écrit dans ses lettres à sa mère qui sont présentes dans le film. Il dit à un moment donné qu'il a vu des choses tellement horribles qu'il peut pas les dire. Et mon hypothèse, c'est que, il devient photographe pour montrer ce qu'il a pas pu montrer, ce qu'il a pas pu dire, de ce qu'il a vu dans la guerre d'Algérie. Donc en fait, quand il sort de la guerre d'Algérie, il veut à la fois être journaliste ou bien peut-être travailler dans une galerie d'art. Et en étant photoreporter, il allie les deux. Et ce qui l'anime au départ, je pense, c'est ça. C'est raconter ce qu'il a vu. Et puis au fur et à mesure, comme il devient célèbre très très rapidement, dès son premier grand reportage en Israël, eh bien au fur et à mesure, il va se poser toutes les questions que se pose un photoreporter. Mais effectivement, pas en le théorisant, mais ça se voit dans ses photos. Et donc, quand je parcourais les différents reportages, au fur et à mesure, on voit comment il se pose des questions, comment il se remet en question, comment il se dit, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose que je suis en train de faire? Est-ce que c'est suffisant d'être témoin? Est-ce que je devrais pas agir? Et ça, c'est évidemment des questions fondamentales. Et il se les pose déjà 2-3 ans après son premier grand reportage.
Et là encore, vous avez retrouvé des lettres qu'il a envoyées à sa mère au moment où il est en Algérie, qui fait son service militaire et qu'il va refuser de combattre, hein, ce qui va lui valoir. Donc c'est ce temps en prison, 1960, il écrit à sa mère « Dès que j'ai 5 minutes, je lis ou j'écris. » Quand nous combattons, j'ai l'air de me promener au bois de Boulogne plutôt que de pourchasser le Felouz, raconte-t-il. Il est déjà entre acteur et témoin, entre les deux. Il va dire aussi ou écrire, on s'endurcit à force d'être plongé dans un monde grossier et sans tendresse. Et là, il a à peine une vingtaine d'années, Gilles Caron. On va écouter les mots du professeur à Paris 1, commissaire de l'exposition Gilles Caron, le conflit intérieur. C'était au Jeu de Paume il y a 5 ans, Michel Poivert. Gilles Caron, le conflit intérieur. Ce titre lui va très très bien.
La figure de celui qui regarde, de l'observateur, est effectivement extrêmement récurrente. On peut avoir des observateurs à la jumelle, comme par exemple durant le conflit des Six Jours ou au Tchad. On peut avoir des lecteurs, on peut avoir des scrutateurs. Et ça, c'est absolument déterminant chez lui. Celui qui regarde, c'est celui qui comprend. Et c'est ça qui est très intéressant chez Gilles Caron, c'est qu'à un moment donné, faire son métier, c'est-à-dire montrer l'horreur, n'est plus un métier. C'est une mise en cause de la position de l'observateur et de la position de l'homme par rapport à un autre homme. Et toute son intelligence, ça a été de montrer la douleur des autres avec compassion, mais à un certain niveau, de se montrer lui-même en train de faire cet acte d'observation. Et c'est la raison pour laquelle la photographie de Raymond Depardon en train de filmer un enfant mourant, c'est-à-dire c'est une mise en abîme de son métier, c'est aussi une sorte d'autoportrait, c'est une question ouverte à toute l'histoire du photojournalisme et du journalisme en général, c'est quelle est ma place, jusqu'où je dois aller, quel est le sens de ces images que je fais.
Voilà le témoignage de Michel Poivert autour de Gilles Caron. Michel Poivert, dont le livre « 50 ans de photographie française » paraît chez Textuel. Cette question de la place du photographe, à la fois observateur et engagé quand même dans une situation, c'est aussi ce que vous montrez, racontez. Là, Michel Poivert évoque un exemple que vous avez aussi traité dans le film, celui de cette photo qu'il va prendre de Raymond Depardon pendant le Biafra, de cet enfant rachitique qui est à terre.
Oui, cette photo est extrêmement frappante. Alors moi, pour comprendre cette photo, ce que j'essaie de faire, donc je remonte dans la pellicule pour voir qu'est-ce qui l'amène à cette photographie. Et en fait, en remontant comme ça, on se rend compte que Gilles Caron, quelques photos avant, il était en train de faire cette photo. Enfin, il était exactement à la place où est Depardon quand il le photographie, Depardon en train de le filmer. Donc l'hypothèse, c'est qu'effectivement, il fait des photos de cette femme et de cet enfant, puis après, il se détourne. Il va photographier une autre femme, et puis il se retourne, et là, il voit Depardon exactement à la place où il était, et je pense que il est choqué d'une certaine façon. C'est vraiment là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors évidemment, ce reportage qu'il fait au Biafra va servir à l'aide humanitaire, c'est à partir de là qu'il va y avoir Médecins Sans Frontières, donc c'est extrêmement important. Il est utile, bien sûr, mais en même temps, au moment où il fait la photo, cet enfant, il n'empêche pas de mourir, qu'est-ce que c'est que ce métier où on photographie des gens en train de mourir au lieu d'intervenir? Et je pense que ça, c'est une question qui... C'est vraiment un moment de bascule dans son travail.
Que vous voyez par la suite? Sur la suite, sur les pellicules qui ont pu suivre ce moment-là?
C'est-à-dire que après, quand il rentre du Biafra, je pense qu'il a envie de faire autre chose. Et le reportage qu'il fait en Irlande, je pense, est une réponse à ça. C'est-à-dire qu'il va en Irlande sans qu'il y ait de commande. Et là, il passe 3 jours à photographier des jeunes gens, surtout des jeunes gens et des enfants, même des rebelles comme ça. Une cause à laquelle il adhère, c'est très clair. Il passe très clairement du côté des policiers au côté catholique. Enfin, je dis catholique, c'est mal dit, au côté républicain. Et on sent que là, il épouse cette cause. Et je pense que c'est une manière de commencer à vouloir faire autre chose. C'est-à-dire ne pas juste photographier des choses misérables, mais c'est enfin trop trop dur, quoi, pour essayer d'aider à construire le récit d'une révolte.
Vous êtes notre invitée jusqu'à 12h30, Mariana Otero, à l'occasion de la sortie de votre film documentaire en salle ce mercredi, Histoire d'un regard consacré au photographe Gilles Caron, décédé en 70. L'histoire d'un regard, donc, c'est à voir en salle mercredi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
L'histoire d'un regard, le sien, mais aussi le vôtre, Mariana Otero, parce que c'est un échange qui se joue aussi dans cette heure et demie de film, dans cette rencontre que vous avez pu faire par photo interposée. Premier grand reportage, Gilles Caron, c'est la guerre des 6 jours. On s'est trouvé dans la guerre, comme ça, il n'y a personne. Tout à coup, le silence, raconte-t-il. Vous avez là encore essayé de retracer le fil de ces photos et de ce regard, premier regard sur une situation de guerre. On écoute un extrait.
Qu'est-ce qu'il veut? Il veut des soldats. Pourquoi il photographie par là? Le mur, il est là.
D'accord.
Il s'est mis au bout et il photographie comme ça. C'est curieux, en fait, qu'il fasse ça.
Alors, quand Gilles Caron va arriver sur le mur des Lamentations, il ne sait absolument pas que c'est le mur des Lamentations.
Ah ben, c'est génial. Ben alors, la photo, là, ça correspond complètement. Ouais, et après, si, il doit quand même... Quand même, il se rend compte qu'il y a des soldats qui sont quand même en train d'embrasser le mur. Alors, et donc, il se dit... Là, je pense qu'il est... là, il sait qu'il faut qu'il fasse des photos, quoi. Pour ça, là, tac, 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 il déclenche, là, quand même. Hein. Ouais. Il s'est quand même mis au bon endroit, parce que ça doit bousculer partout. Ça y est, il a compris que c'est ça, le truc. Enfin, qu'il faut avoir le mur, quoi.
Voilà, et là, vous êtes avec l'historien Vincent Lemire, qui passe un moment fantastique à observer le cheminement du photographe, à retracer le fil de ce reportage avec vous sur un véritable chemin de fer. Pourquoi cette forme? Et là, c'est une question à la réalisatrice, cette forme de la reconstitution.
Alors, En fait, ce que je me suis dit dès le début de l'écriture de projet, c'est que je voulais, pour chaque reportage, utiliser un dispositif narratif différent, et pour que ce soit pas répétitif, et puis pour aussi donner à voir le plaisir que moi-même j'avais eu dans cette découverte de Caron et où j'avais utilisé des moyens différents. Pour Jérusalem, je pensais que c'était très important d'avoir un historien spécialiste de Jérusalem qui connaisse très très bien l'histoire, parce que c'est quand même un sujet extrêmement brûlant. Et que moi-même j'avais eu du mal à, enfin je comprenais pas les trajets qu'il avait fait dans cette ville. Donc j'ai eu l'idée comme ça de faire venir cet historien. Donc Vincent Lumière est un grand spécialiste, connaît très très bien. Donc pour le choisir, je lui avais montré une photo, juste une, et là il m'avait tout de suite, t'avais trouvé où ça avait été fait, etc. Donc je me suis dit voilà, c'est le bon choix. Et quand il découvre dans cet atelier où j'ai installé toutes les photos que Gilles Caron a fait ce jour-là. En fait, le tournage dure 5 heures. Et il est effectivement absolument fasciné par ce qu'il voit, parce qu'il y a des choses qu'il connaît très bien, mais il y a des choses qu'il n'avait jamais vues, quoi. Entre autres, la dernière photo du quartier maghrébin que Gilles Caron a faite. Donc c'était un moment absolument passionnant où moi qui apporte beaucoup de réponses à des questions que je me posais, qui apporte des éléments fondamentaux, par exemple le fait que les soldats d'armée israélienne portaient les uniformes que les soldats français portaient pendant la guerre d'Algérie. Donc là encore, Gilles Caron, quelque part, il se voit dans ses photos. Et tout son travail est habité par ça. Hein. Il y a quelque chose d'autobiographique, on pourrait dire, d'une certaine façon, dans son travail. Et donc cette scène, elle a été, pour moi, c'était un grand défi, parce qu'elle était extrêmement préparée, et en même temps, elle est totalement documentaire. Donc en termes de cinéma, c'est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire à la fois cadrer les choses, les préparer comme dans une fiction, et en même temps laisser la place à l'improvisation.
C'est un peu ce que lui fait d'ailleurs comme photographe. Hein, le point de départ de ce documentaire, on parlait des 100 000 photos auxquelles vous avez été confronté. Vous repartez de la fameuse photographie de Cohn-Bendit pendant mai 68, prise par Gilles Caron, quand il regarde souriant, insolent, le policier. Il a été à ce moment-là convoqué, il doit venir rendre des comptes. Et vous retracez le cheminement du regard de Gilles Caron, des images à la fois assez spontanées, on sent aussi, mais travailler quand même par la recherche de la bonne composition. Pour lui, il y a cet échange de regards entre Cohn-Bendit et Gilles Caron, comme une complicité où chacun va essayer de se positionner au bon endroit. Vous, pour vos films, Mariana Otero, vous mettez longtemps à trouver le bon point de vue, la bonne place.
C'est en peu ça que j'essaie de raconter aussi dans le film, c'est que c'est toujours le fruit à la fois du hasard, mais c'est aussi le fruit évidemment avant d'un grand travail, enfin d'un long travail, d'un travail de repérage qui permet au moment où les choses arrivent, qui est forcément imprévu et qui est forcément ce qu'on n'a pas imaginé, d'être prêt à le saisir. Et le film raconte ça à la fois je raconte comment, de façon un peu hasardeuse, je suis tombée sur ce livre et comment le travail va faire qu'à un moment donné je vais pouvoir mettre en évidence et révéler quelque chose du travail de Gilles Caron, mais aussi dans ce reportage effectivement que fait Gilles Caron sur Cohn-Bendit, on voit bien comment il repère quelque chose qui pourrait être intéressant et comment il va tout faire sur deux pellicules pour arriver à être à la bonne place. Mmh. Donc c'est la bonne place, elle arrive pas comme ça. C'est pas que le hasard. C'est le fruit d'un long travail.
Voilà. Et puis vous l'avez raconté aussi. Il y a c'est ce que vous dites et dont vous témoignez dès l'ouverture du film. Il y a pour vous un écho entre ce qu'a vécu Gilles Caron et ce que vous avez connu. Votre mère est décédée aussi très jeune, à peine 30 ans, laissant derrière elle deux filles, donc vous, comme Gilles Caron, deux petites filles aussi. Lui, il les avait photographiées. Votre mère, vous avez dessiné. Donc on sent cette histoire que vous aviez racontée dans Histoire d'un secret, ce parallèle, cette résonance aujourd'hui avec Histoire d'un regard. Est-ce que vous diriez que cette écriture que vous avez pratiquée pour ce film-là reste assez expérimentale et subjective, et est-ce qu'elle ne pouvait trouver sa place qu'au cinéma? Aujourd'hui, on ne pourrait pas diffuser un film comme celui-ci à la télé, ou en tout cas le produire que pour la télé?
Bon, il y a quand même une chose qui pour moi est très importante et qui passerait pas à la télé, c'est les photos en grand écran. C'est quand même extrêmement fort de voir ces photos en grand écran. Après, la télé, malheureusement, elle accueille pas des écritures originales. Elle est quand même assez formatée aujourd'hui. Et justement, par exemple, elle laisse très peu la place à l'improvisation. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai essayé de travailler avec la télévision, c'était un échec parce qu'ils voulaient absolument savoir ce que le film allait raconter et ce que les scènes allaient raconter. Et là, par exemple, Vincent Lemire, Je ne sais pas ce qu'il va raconter. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais rencontrer les gens qu'il a photographiés en Irlande et que je les découvre 50 ans après. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait la force. C'est ce mélange. Mais il faut pouvoir improviser. Et la télé, elle accepte pas du tout ça.
Et en même temps, il y a comme un boom du documentaire en ce moment. Il y a des choses absolument magnifiques qui s'y font. Je vois de plus en plus autour de cette grande table, on parle avec des réalisateurs, des cinéastes, de deux documentaires, parce qu'on sent que c'est aussi un champ d'expression
tout à fait
important. Est-ce que les festivals vont pour vous peut-être ouvrir aussi une nouvelle voie? Je pense à ça parce que le FIP Adoc à Biarritz vient de rendre son palmarès en un mot, un grand prix du documentaire international qui a été décerné au réalisateur israélien Dror Moreh pour The Human Factor, qui interroge la place du facteur humain dans la résolution des conflits. Et puis un grand prix du documentaire national, c'est-à-dire pour les Français, décerné à Danser sa peine de Valérie Müller. Ce qu'en dit le jury, il dit que c'est un sujet qui avait été déjà beaucoup traité, l'intervention d'un artiste en prison, mais qu'ici elle l'a traité d'une manière qui surprend, qui fait émerger des personnages assez magnifiques. La star du documentaire, c'est le chorégraphe Angelin Prejlocage, mais qu'il passe au second plan, à côté des témoignages. Voilà pourquoi le jury a consacré ce film.
Oui, je pense effectivement que les festivals sont importants. Bon, après, ils passent pas assez longtemps dans un festival au cinéma. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un certain temps pour que le public puisse découvrir les films. Et moi, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée vers le documentaire. C'est que je trouve que c'est un lieu, effectivement, de liberté d'écriture et d'invention. La fiction, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de, voilà. Donc là, tout d'un coup, ça se formate plus. Il y a des demandes d'un certain type de film qui, c'est plus compliqué d'être libre en fiction, je pense qu'en documentaire, même si évidemment je pense qu'il y a des très bonnes fictions. Et c'est pour ça qu'il y a une appétence, je pense, des réalisateurs vers le documentaire. La télévision, malheureusement, n'accueille pas assez, et donc on se retrouve à beaucoup de films en cinéma, ce qui est formidable, sauf que comme les écrans sont quand même envahis par le même type de film, on a un petit peu de mal à trouver notre place.
Oui, il va falloir voir aussi quelle sera la seconde vie de ce film. Merci beaucoup à vous, Mariana Otero, d'avoir été avec nous ce soir. Avant-première, c'est à Paris, au cinéma Le Balzac, et demain, on est bien mardi, hein.
Oui.
Demain, sortira en salle partout en France de votre film Histoire d'un regard autour de Gilles Caron. Merci à vous.
Merci.